Cette semaine, dans le balado, on veut retrouver notre fille, on subit de l'intimidation et on eut une amitié improbable. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Bonjour Jeff.
Salut, salut.
Donc, une fin de septembre assez occupée en termes de sortie. Beaucoup de choses à jaser.
Je sais pas qu'est-ce que cette date-là avait de si importante pour tout le monde, mais il y a comme 7-8 films qui sortaient aujourd'hui. On enregistre le 26. Fait que on va couvrir ça en long et en large autant qu'on peut dans une durée raisonnable.
Bien sûr. Donc, mais ça devrait aider parce que vraiment, c'est de petites actualités cette semaine.
Okay.
J'en ai relevé deux qui ont plus d'importance.
Vas-y.
Zach Cregger semble très occupé par les temps qui courent, parce qu'en plus de son prochain film qui sera une...
Resident Evil, dans l'univers Resident Evil. Parce que ça, il doit être en tournage. Parce que...
Je pense que c'est pas commencé, mais je pense que ça s'en vient prochainement.
Parce qu'il me semble que c'est pour automne 2026, je pense.
Ça pourrait bien être... Ouais. Pour octobre, genre fin septembre.
Il me semble que c'est comme dans un an. Fait que
mais non. Je pense qu'il va surfer sur le succès de Weapons.
OK.
Parce qu'il a annoncé qu'il y aurait probablement un prequel.
Ah, c'était les rumeurs sur le personnage.
De la tante Gladys. Uh-huh. Donc, certaines scènes ont été coupées au montage pour explorer un petit peu plus son passé. Et je pense que ça a été finalement voulu par Cregger de garder ça plus mystérieux. Mais déjà, avant même le tournage de Weapons, je pense qu'il y avait pas mal un scénario en place, pas complètement écrit, là, mais qui avait réussi
Bon squelette.
Ouais, à vendre à Warner si le film fonctionnait. Donc, après son Resident Evil, je pense qu'on va retourner dans l'univers de Gladys.
Et Jordan Peele doit être encore plus fâché de pas réussir à avoir réussi à l'avoir.
Sinon, Émile Gaudreau, je ne sais pas si ça va se passer, annoncer son prochain film. Ouais, une coprod. En tout cas, il va travailler avec des Français.
Oui, coprod France-Québec, une famille française, une famille québécoise. Quoi, ils font-ils un échange de maison?
Non, en fait, c'est co-écrit avec Guy Laurent, qui avait fait « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? »
OK.
Il semble un peu être...
La grosse comédie grand public.
Oui, tout à fait. Mais je pense que ces thèmes-là vont revenir dans le film parce que c'est une famille française qui va être très conservatrice. Ça se déroule d'un mariage, là, fait que je pense que
les deux familles
qui se rencontrent et tout ça, et la famille québécoise qui va être un peu plus « woke » en guillemets, puis là, ça va être le clash des
valeurs. Ils sont pas barrés.
Ouais, c'est ça.
Je me souviens qu'il y a des très gros noms au casting.
Oui.
Hein,
il me semble qu'il y a Patrick Huard, entre autres.
Antoine Bertrand.
Ouais. Thierry Lhermitte, ça se peut-tu du côté français?
En France,
français,
Thierry Lhermitte, puis un autre nom, on est un peu poche, là. Il a annoncé ça sur la Facebook de Imina Film, puis de Amalga, qui est la compagnie de production, je pense, de Émile. Puis, non, c'était Amalga? C'est Amalga, mais il me semble que c'est Film du Lac, la compagnie de... Mais c'était, dans le fond, le producteur, là, où je ne sais pas trop.
Moi, j'avais avec Imina qui devait
être il taguait aussi Amalga. Ça, je me souviens que dans la famille québécoise, il y a Magali Saint-Vincent, qui est une humoriste. Maintenant, une humoriste, mais qui a étudié en théâtre aussi, qui fait beaucoup les blagues avec Pascal Marino, là, les extraits du Golden Top G podcast. Fait que les deux filles qui jouent les nunuches en réponse à tous ces fameux podcasts masculinistes qu'il y avait eu même au Québec. Pas de bon sens. Bon, font une parodie de ça. Du côté féminin aussi, d'être comme... un peu si elles étaient comme les blondes de ces gars-là masculins. Fait que, bref.
Donc, premier rôle au cinéma pour elle.
Oui, je pense que oui. Fait que c'est drôle de lâcher un peu le théâtre parce que ça... pour l'avoir écouté en podcast, en différents podcasts, en Mike Ward sous-écoute, des choses comme ça. Fait que lâcher un peu le théâtre parce que ça marchait pas trop, mais de retrouver que ça marche en humour, puis là, par la carrière humoristique, retourne au cinéma.
Donc, j'imagine que ça va être une des grosses comédies de l'été 2026, en théorie.
Oui, c'est ça. Puis que là, il devrait fonctionner en France, fonctionner au Québec, avoir un bon rayonnement international là-dessus. Fait que, gros projet. C'est cool de voir ça.
Donc, à suivre. Voilà pour les actualités. Sinon, bande-annonce, il y en a encore deux que j'ai repérées, dont une que tu as eu le temps de voir aussi, que je trouve très intéressante.
Oui, en fait, c'est pas anodin. C'est avec la sortie, on y viendra, du nouveau Paul Thomas Anderson. Warner Bros. Fait une petite mise en bouche à tout ça. petit préambule, c'est que on avait critiqué au moment où Mickey 17 fonctionnait pas vraiment, puis que là, on se rapporte à il y a plusieurs mois quand on en discutait aussi. Fait que là, les têtes fortes chez Warner étaient comme « ça se peut que ça va pas bien, parce que là, on vient d'essuyer deux échecs commerciaux sur des gros financements. » Puis là, on a mis, ben là, le Paul Thomas Anderson a coûté genre 140 millions. On en discute dans quelques minutes. Puis un film de Maggie Gyllenhaal.
Ouais, disons comme ça.
Je ne sais toujours pas. Puis,
quand on la rencontrera, on lui demandera.
Oui, j'ai très hâte. Et c'est ça qui coûtait aussi plusieurs dizaines de millions. Fait que là, on était comme, ça, c'est des projets comme artistiques, là, cinéma plus indépendant, mais avec des budgets de super production. Ouais. Fait que là, ça semblait très casse-gueule. Mais là, Warner, Minecraft est sorti, plein d'autres films, il y a eu plein d'autres succès. Weapons, comme tu disais, d'entrée de jeu et tout. Fait que je pense que ça va très bien. Alors, au moment où le Paul Thomas Anderson prend l'affiche, ben là, on sort la bande-annonce de The Bride, qui sera la fiancée au Québec.
Les films avaient été reportés aussi, il faut dire, devaient sortir originalement
pour l'Halloween, mettons.
Il me semble que c'était en septembre même. Okay. Je pense que c'est peut-être One Battle qui a pris sa place.
Puis là, ils ont reporté.
Puis ils ont switché un peu les trucs. Puis aussi parce qu'il y avait le Frankenstein de Del Toro,
ouais,
qui est ailleurs un peu.
Parce qu'on
mais...
est un peu dans la fiancée de Frankenstein,
exactement,
finalement,
oui,
c'est
oui,
ça.
Tout à fait.
Bref, puis je suis pas certain, je pense en fait la bande-annonce en version française n'est pas encore disponible. Fait que si vous allez voir le Thomas Anderson en fin de semaine, version française, ben là la bande-annonce sera pas là, mais en anglais elle devrait y être, elle est sur YouTube sinon. Donc c'est pas vrai, c'est pas la première, c'est quoi, troisième je pense réalisation de Maggie Gyllenhaal, mais
première au cinéma parce qu'elle avait fait des films de
ouais, Netflix et tout, ouais, mais en fait oui, mais je pense pas qu'il avait été fait pour la plateforme. Je pense qu'il avait été racheté. Malgré elle, ça s'est pas allé au cinéma. Mais gros casting, Jesse ouais. Buckley, Christian Bale, son frère Jake Gyllenhaal, mm-hmm. son mari Peter Sarsgaard, Annette Bening, Penelope Cruz, pas plate comme, comme casting. Ça a l'air un peu Coco Banane, comédie d'horreur déjantée. C'est-tu musical aussi? Ou...
Je ne crois pas.
Je pense pas
mais
non plus.
Je pense que The Bride of Frankenstein était un peu dans ce ton-là aussi pour l'époque.
Fait donc... que c'est la créature du Dr. Frankenstein qui se crée une créature un peu. C'est un peu
ça. En fait, on semble avoir évacué le Dr. Frankenstein dans cette version-là parce mm-hmm. que ce rôle-là semble être joué par Annette Bening. Mais effectivement, ça reprend une partie du roman de Mary Shelley qui okay. Ont créé une conjointe à Frankenstein. Donc, inspiré par ça, par le film The Bride of Frankenstein de 1935 aussi. Mais là, on a placé ça dans les années 30 à Chicago pendant la Prohibition. Fait que c'est ça qui a l'air un peu bonkers. Hein. Fait
ouais,
que,
ouais.
Ben, moi, j'ai hâte de voir.
Ouais, ouais. Vraiment hâte de voir ça. Ouais. C'était au mois de mars.
Mois de mars, 6 ouais. mars, effectivement. Fait que, tu sais, j'étais comme un peu sceptique quand le projet avait été annoncé, tout ça, mais voyant les premières images, je pense que ça peut être une belle surprise.
Oui, ce que j'espère. En même temps, c'est la même période que Mickey 17 qui n'a pas vraiment marché, mais ouais. je ne crois pas que c'est la période le problème. Bon, c'était juste, je ne sais pas, l'attrait.
Ouais, peut-être
trop
tout
weird,
simplement. Oui, oui, oui. Mais en même temps, je pense pas que The Bride va atteindre des sommets, mais je pense que ça peut être quand même une belle réussite
ouais, exactement. Ben en fait, mais... un gros studio, je pense que c'est ça qu'on souhaite d'eux, c'est faire des blockbusters, que les blockbusters soient assez bons pour réussir ouais. dans une formule de blockbuster, c'est ça, là, et Minecraft, puis des trucs comme ça, puis des Superman, puis là, réussir ça. Puis prenez une partie de vos profits pour réinvestir dans des projets plus audacieux
ben,
qui vont
voilà.
peut-être permettre de gagner des prix, de se distinguer, de faire du bon cinéma. Parce que s'il faut que tout soit rentable tout le temps, ça serait fun dans un monde idéal, mais c'est ouais. comme impossible. Ben là, tous les projets audacieux auraient comme 8 millions, puis là, ils seraient jamais à la hauteur des ambitions. Fait que c'est super cool que le Paul Thomas ait pu avoir l'argent ouais. pour rendre le film. L'autre dans l'annonce, c'est quoi? Je pense que je l'ai pas vu.
L'autre dans l'annonce, ben, c'est le nouveau Star Wars. Okay. C'est comme drôle qu'on...
Mais pas... Est-ce qu'il va sortir avant celui avec Ryan
oui,
Reynolds?
Okay. C'est mai 2026. Fait que okay. Ça s'en vient cette année aux portes.
Okay.
Oui, oui, tout à fait. Mais c'est comme drôle qu'on comme pitché ça là.
Ouais, parce qu'il n'y a rien d'autre de
non,
Disney
c'est ça.
De Star
puis
Wars.
Il n'y a pas de... C'est souvent, c'est des conventions, des rencontres d'investisseurs, puis là, mais c'est comme sorti de même comme ça. Mais donc oui, fait, alors c'est le film tiré de la série de Mandalorian. Alors le film de Mandalorian et Grogu, alors le fameux chasseur de primes et le petit bébé Yoda, réalisé par Jon Favreau qui est derrière la série. Donc c'est lui qui l'apporte au cinéma.
Complètement Star Wars.
Vraiment. Et co-écrit avec Dave Filoni aussi qui est l'autre. Gros créateur de séries télé chez Disney, chez Lucasfilm. Donc, on a l'impression que ça va probablement se dérouler entre la saison 3 qui a déjà été diffusée et la saison 4 qui est à venir éventuellement. On ne connaît pas trop les détails de l'histoire, évidemment, mais il y a quand même Sigourney Weaver au générique.
Est-ce qu'elle est dans la série télé?
Non. Okay. Fait que c'est vraiment un nouveau personnage. Fait que ça, c'est le fun de voir Sigourney être dans une nouvelle franchise vénérable comme ça. Et Jeremy Allen White qui va faire la voix du fils de Jabba the Hutt.
Ah ouais? Okay.
Lui, on m'a déjà vu plus jeune dans les Clone Wars.
Est-ce qu'il a la même physionomie que Jabba the Hutt?
Ah oui, quand même. Ouais, on le voit un petit peu
pas
de
Jeremy,
côté.
Pas Jeremy, lui, je sais qu'il a une très belle physionomie. Mais...
il est effectivement pareil, mais ça demeure encore très mystérieux. Là. On le voit que quelques instants, on l'entend pas parler non plus. Mais ce qu'il y a d'air très spectaculaire au cœur du film, c'est qu'il y a une séquence qui se déroule dans les fameux AT-AT, donc les
petits robots sur pattes du Star Wars.
Dans l'Empire contre-attaque. Là, fait les gros robots à quatre pattes. Là,
c'est le quatre pattes, les AT-AT. Ouais. Je pensais que c'était le petit avec les Ewoks dans la...
Non, ça, c'est les AT-ST.
Ah, AT-ST. Okay. Attends, AT-AT puis AT-ST.
Ouais, c'est
okay.
Ça.
Mon erreur.
Cet été, il y avait une petite séquence qui avait été diffusée sur Internet qui n'est pas dans la bande-annonce, mais on voyait vraiment le Mandalorian pénétrer à l'intérieur du AT-AT et faire du dommage, évidemment. Mm-hmm. Et c'était vraiment spectaculaire. Fait que je pense que ça va tourner des têtes. Et le fait d'avoir Jon Favreau, qui est un excellent réalisateur pour ce genre de film-là, je pense que ça va être le retour en force de Star Wars.
Et ton opinion, penses-tu que le film va être hermétique ou ouvert à ceux comme moi qui n'ont pas du tout écouté la série?
Puis... j'ai l'impression que ça va être assez ouvert. Je pense que Disney ne prendront pas la chance...
Surtout qu'ils sont en train de se faire un peu avoir avec les Marvel qui deviennent comme ça, là, tranquillement, un entonnoir de faut tout avoir vu, faut aimer ça, faut avoir vu
puis
les anciens.
Surtout que l'épisode 7, 8, 9, avec le recul, ne sont pas si appréciés, même s'ils ont fait beaucoup d'argent. Donc, j'ai l'impression qu'ils misent beaucoup pour ramener les fans dans la bagasse. Oui, tout à fait. Donc voilà pour les bandes annonces. J'avais dit, ça sort le 22 mai 2026.
Ah, c'est même pas au Star Wars Day 4 mai.
Non,
4 mai,
non. Non, ouais, parce que c'est. Ah non, y a-tu un Marvel?
Ou un Disney Animation, quelque chose.
Ouais, peut-être. Parce que l'année prochaine, non. Je pense qu'à l'origine, c'était peut-être l'Avengers qui avait été, lui, déplacé au mois de décembre, finalement. Mais je pense qu'il n'y a pas rien de comique qui a pris sa place. Fait que, bref.
Peu importe.
Allons-y donc avec les films et débutons, je pense, par celui qui était attendu par beaucoup de cinéphiles. One Battle After Another, le nouveau Paul Thomas Anderson, dont c'est le 10e film quand même.
Au Québec, une bataille après l'autre. Alors, bonne traduction ici.
Ouais.
Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infinity, Benicio Del Toro, Regina Hall, nouvelle venue, Teyana Taylor. Gros casting quand même, quelques nouveaux noms, mais des faces reconnues. DiCaprio fait comme partie d'un couple qui participe à des événements militants révolutionnaires, là, avec des bombes, puis de la séquestration de monde, puis tout. Pas tuer des gens, mais juste libérer, puis contre vraiment le patriarcat, puis l'espèce de dictature économique, j'ai un blanc là, le mercantilisme.
Le capitalisme, merci. Le gouvernement aussi.
Exactement.
Place, tout ça, ouais.
Fait que des actions destructrices et violentes. Puis à un moment donné, ben là, ça commence à brasser. Ils s'appellent les French 75, les French 75. Et ça commence à brasser, soupe chaude. Fait que sa femme va se sauver, le laissant seul avec leur nouvelle fille, leur premier enfant. Et ils vont tous avoir se faire cacher par leur propre regroupement, French 75, pour éviter les répercussions judiciaires contre eux. Alors, on va se transporter 16 ans plus tard, où là, le vieux colonel...
Lockjaw,
meilleur nom, personnage très coloré, très weird.
Je pense que Sean Penn évoque... son inner Robert Kennedy Jr., j'ai l'impression.
Ah ouais, ouais, puis, ah ok, ouais, ça c'est lui qui est en charge moment, là, qui est très weird.
De la santé, ouais.
Ok, puis qui va, pour des raisons personnelles qu'on va comprendre plus tard, parce qu'il veut rejoindre un groupe élitiste d'extrême droite, les cavaliers de Noël, les chevaliers de Noël. Ouais, c'est ça. Puis de groupes de blancs riches qui veulent aller pour le mieux, puis
qui sont pour la race aryenne.
Ouais, ouais, tout à fait, c'est... là, des néo-nazis, juste pas les cheveux rasés, là. Et fait que là, pour des raisons personnelles, ben essaie de retrouver cette fameuse bande là dont la fille de cette révolutionnaire là est de DiCaprio. Alors tout ce beau monde là, ben essaie de retourner au point de ralliement puis de mettre l'ordre dans des choses et de survivre et d'éviter de se faire capturer et de résoudre quelques tensions du passé au travers de tout ça.
Et tout ça en 2h45 ouais. Quand même, faut le dire.
Que, c'est, comme on dit, son plus gros budget jusqu'à présent. C'est vraiment avoir les moyens de ses ambitions. Ça peut rappeler, j'ai vu dans certaines critiques, mettons, Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, plusieurs volets, très, je trouve, international à sa façon. Là, mais il reste toujours aux États-Unis, mais beaucoup de personnages, beaucoup de différents moments de cette fameuse quête de chercher suivre un personnage, suivre l'autre personnage, suivre le troisième. C'est pas un film choral pour autant, mais à un moment donné, il se cherche, fait qu'il se retrouve à des endroits différents, il leur arrive des mésaventures à chacun. T'sais.
Et il y a quand même une fonte de personnages assez colorée, il faut le dire aussi, là, quand même.
Ben, moi, c'est... Mon point de vue là-dessus, c'est que DiCaprio est très bon, il est toujours bon, il est toujours juste. Là, lui, il joue cet ancien révolutionnaire-là, qui maintenant, il n'est pas resté tant, excuse-moi l'expression, mais bandé sur la cause. Là. Il est assez défaitiste de tout ça, d'avoir perdu sa femme, là, qu'il l'a laissé pour continuer. Fait qu'il est dans un bled perdu, fait qu'il est alcoolique, il est drogué, il a l'air d'être sous le pot ou sous le cristal maître ou des affaires de même. Fait que là, quand on le voit dans mon annonce, quand les problèmes recommencent, ils ont tous des noms de code puis des affaires qu'il fallait qu'ils mémorisent puis qu'ils brûlent après pour qu'il n'y ait aucune trace. Quand même pas mal de misère à se souvenir de tout ça. Puis, tu sais, il a l'air du dude, là, parce que vu que ça pogne mal, ben, il est en vieille robe de chambre carottée tout le long.
J'ai l'impression que c'est un clin d'œil un peu à...
Ben, sûrement,
au Big Lebowski,
ce personnage-là.
Parce qu'en plus, même les cheveux aussi.
Ouais, puis il y a
des longs, les attaches, les lunettes.
Puis il se retrouve avec des lunettes fumées plus grosses, mais quand même tout le temps. Fait que, ouais, il y a un clin d'œil à tout ça, je pense. Puis il est vraiment dépassé par tout ça. Là. C'est loin de lui, là, l'époque, il y a 15 ans, où il posait des bombes, puis qu'il était très animé de cette force de révolution-là. Là. Il est pas en acceptation avec le système, mais il est juste comme « right chez nous » comme ça clapait. Ça le fait chier. Mais il est quand même un peu nerveux de tout ça, mais il est plus sur le gun, comme on dit. Fait que je pense que ce qui aide, c'est que lui, il est assez dans ce chaos-là. Puis c'est l'incarnation de Benicio del Toro, qui est un sensei, qui lui est super cool, puis il va venir l'aider à maner, puis on va comprendre que lui aussi, son personnage, il aide beaucoup la cause des Mexicains puis des immigrés illégaux. Et le personnage extrêmement coloré de Sean Penn, comme on l'a dit, ça sent les nominations aux Oscars pour bien du monde dans ce film-là. Dur de prédire qui va gagner, là, mais il y a bien du stock là-dedans de haute qualité.
Et puis, écoute, c'est un film qui, tu l'as dit, devrait se retrouver en nomination aux Oscars. Et quoi, 98% sur Rotten Tomatoes. Avec
je
les
pense
critiques
que oui, moi sur
Letterboxd,
je vois juste du 4 étoiles et plus.
Donc, c'est quand même un film. Moi, j'ai trouvé qu'il y a quand même quelques longueurs. Là. Je peux mettre un petit bémol. Je trouve que le 2h45, il aurait pu être resserré un petit peu. J'ai déjà quelques scènes en tête, mais ce serait des spoilers là, que j'aurais peut-être coupé. Mais ceci dit, les comédiens sont vraiment tous très bons. La réalisation, elle est vraiment impeccable de Paul Thomas Anderson. C'est quand même une histoire qui plairait peut-être pas à tout le monde. Puis quand même, Paul Thomas Anderson a son style à lui. Fait que, tu sais, si vous aimez Paul Thomas Anderson, je pense que vous allez capoter sur le film.
C'est son style, mais c'est une adaptation d'un roman.
Ouais, je suis allé lire un peu. C'est vraiment plus une inspiration qu'une adaptation propre. Mais je pense que si vous aimez pas son cinéma, je pense pas que vous allez vraiment aimer. Je pense que c'est pas si accessible à tout le monde. Je pense que ça demeure pour cinéphile un peu averti quand même.
Ouais, parce que ultimement, parce... sans dévoiler, l'histoire est assez simple.
Elle est simple, mais...
mais c'est quand on même présente plus des personnages qu'une intrigue si solide que ça. Là.
Ouais,
je pense pas que c'était son objectif. C'est pas
non, je pense qu'il...
C'est ça, c'est pas un policier ou une enquête ou quelque chose comme ça. Il y a pas de...
Mais c'est
un mauvais moment pour Ben.
Sachez-le quand même que c'est je pense pas que c'est un film si blockbuster.
Non, vraiment pas. Le risque financier est encore là.
C'est ça.
Mais
c'est un
le
film
pari qui réussit, je trouve, c'est que la qualité est là. Moi, je trouve que c'est un très, très bon film. Ouais. J'ai clairement aimé ça plus que toi. Mais les autres points forts que je souligne, le montage.
Mm-hmm.
Le montage rend ça très dynamique, très nerveux par moment. La musique de Johnny Greenwood est excellente et juste à point parfaite pour le film. Les moments, beaucoup, où il est avec Benicio Del Toro, là, puis qu'il se sauve partout, puis que la police vient, puis qu'il y a des manifestations extérieures, puis tout, c'est pas un plan-séquence, mais ça feel comme un plan-séquence parce que la musique est parfaite pour tout ça sans être too much. On le décrit, le film, comme un suspense d'action, mais c'est aussi un peu une comédie noire, mais c'est pas juste une comédie, on va pas se taper ses cuisses tout le temps, mais il y a quelques moments très drôles par l'ironie de tout ça. Mm-hmm. Là. Puis...
Ben, je pense que c'est un peu le ton souvent des films de
okay.
Paul Thomas Anderson aussi.
Je n'ai pas tous vu, ça fait un bail que j'ai vu. Dans mon souvenir, par contre, tu sais, There Will Be Blood, qui avait été son gros succès avec plein d'Oscars et tout, avec Daniel Day-Lewis et tout, était pas comique.
Non,
par contre,
plus,
il
n'était
pas. Mais c'est vrai que
Magnolia,
Boogie Nights, c'est ça. C'est...
Même Licorice Pizza, on était... Ouais.
Licorice est vraiment son ovni parce que c'était le moment autobiographique et tout. Ouais. Là.
Mais moi, j'ai bien aimé la jeune qui joue la fille de Leonardo DiCaprio, Infinity.
Ah, c'est Chase Infinity, j'ai mélangé. Je pensais que c'était Anya Taylor.
Non, c'est son premier rôle au cinéma. Elle avait fait le jeu dans une série l'année dernière sur Apple.
Okay.
Je pense qu'elle a un naturel très désamorçant. Je pense qu'on va la revoir beaucoup. Puis en plus, elle fait, on la voit un peu faire d'arts martiaux dans le film. Elle est vraiment coach de kickboxing. Fait
qu'elle faisait
ça avant de devenir comédienne à temps plein, je pense. Fait que je pense qu'elle peut être très badass.
C'est drôle comme son dernier film était Licorice Pizza, puis il avait introduit le j'oublie toujours son prénom, mais le fils de Seymour Hoffman.
Ouais, Cooper Hoffman.
Que l'on a revu deux semaines dans The Long Walk. Là. Fait qu'effectivement, peut-être ça va faire ça aussi, que c'est lui qui va avoir montré Chase Infinity au monde.
Et il y a aussi, dans un petit rôle, mais j'ai trouvé ça le fun qu'il la ramène, c'est Alan Haim qui était dans Licorice Pizza. Je pense que j'en aurais pris plus. Elle est vraiment fascinante à voir, puis j'aimerais ça qu'elle joue dans plus de films que ça.
Ouais, c'est ça. On dirait qu'il y a juste elle, juste lui qui la veut comme actrice.
Ben, écoute, peut-être elle aussi qui veut vraiment juste se concentrer sur sa musique, puis quand Paul l'invite,
elle le prend. Surtout que ça devait être trois jours de tournage. Je voulais souligner, ça a été filmé en pellicule. Ça doit être aussi une bonne partie des frais. Le Vista Vision, 35 mm, ça ajoute énormément au film. Je l'ai pas vu en IMAX ou en pellicule, mais il y a un grain naturel. Il y a des scènes que, d'après moi, c'est un hélicoptère. Là. C'est pas des drones. Il y a un mouvement qui est justement naturel et un peu faux, tu sais, si on veut, imparfait. C'est ça que je voulais dire.
Peut-être même juste attaché après une voiture.
Oui, ça, il y a eu ça sur des voitures aussi. D'habitude, moi, je l'ai déjà dit à l'occasion, les scènes de voiture, de poursuite de voiture, je m'en lasse très rapidement. Là. Après une minute, je suis brûlé, là, même si j'aime rapide et dangereux. Mais pas tant de scènes de poursuite de voiture au final. Il y en a deux là-dedans dans ce film-là qui sont bien différentes l'une de l'autre. Une en ville quand au début les militants ça chie, je la trouve très excitante avec une conduite erratique comme on dit, et celle de la fin que je sais même plus, on est rendu dans un peu désert de californien, puis c'est des vallons, puis ça rappelle vraiment des vagues comme un bateau, puis c'est un mélange de mal de cœur puis d'être au bout de son siège parce qu'on se demande toujours qu'est-ce qui va arriver dans ces vallons-là, avec l'espèce de petit effet mirage là, de la chaleur sur le bitume chaud et tout. Fait que vraiment anxiogène, là, ça... Je sais pas, j'ai rien à nommer, là, mais ça rappelait les meilleurs films comme ça là, d'angoisse de voiture. Puis tu penses pas que le film va te mener là. Tu sais. Fait que là, je l'ai un peu révélé, mais je révèle pas ce qui se passe comme tel. Fait que moi, c'est ça que j'aimais. Moi, j'étais vraiment accroché à un mélange entre un film de dialogue. C'est vraiment un film de personnage, en fait. C'est un peu ça, puis qui arrive à créer une tension au bout de tout ça. Puis, tu sais, le DiCaprio est comme un peu le spécialiste poseur de bombes. Fait que je m'attendais pas à ça non plus au début, amener une séquence en rafale des 4-5 bâtiments qui fait péter. Là. Fait que ça ajoute à la facture, mais c'est super dynamique. Le film part vraiment en lion, là, avec...
Ouais, on tombe dans l'action,
très vite, jusqu'à temps que là, on se recalme quand on se transporte 16 ans plus tard, puis qu'il est rendu à juste fumer une pipe dans son char. Là. Fait que moi, c'est vraiment dans... Je regardais sur mes films préférés de l'année, là, puis il est dans le top 3 à date, puis il reste à voir. Il est vraiment...
Moi, je confesse impeccable. Qui sera pas dans mon top 10 de l'année. Même si j'ai aimé, mais c'est pas un coup de cœur.
Mais je comprends tes réserves sur... ben là, on discute sans rien divulgacher, mais tes réserves sur comme l'histoire, puis que peut-être qu'il y en a pas assez et tout, mais je pourrais pas te dire que c'est plus profond que ça, mais c'est juste que j'ai adoré.
Ben ouais,
film était fait pour moi.
Tout à fait. C'est bien correct.
Moi et plusieurs. Mais oui, il faut pas s'attendre... moi, je dis, gênez-vous pas pour aller le voir dès le premier week-end. Je sais que des fois, les gros films, événements, mettons Avatar ou Minecraft, je vais attendre un peu que ça se calme. Les cinéphiles sont très enthousiastes de ce film-là. Les critiques sont excellentes, mais on l'a énuméré. Je pense que ça va pas parler à tout le monde. Fait que gênez-vous pas, allez-y. Je pense pas qu'il va y avoir des salles combes partout puis des files de 300 personnes pour rentrer. Là. Ça sera pas Demon Slayer non plus en termes d'engouement. Je pense qu'on prévoit peut-être un week-end de 40 millions, ce qui serait super bon pour lui.
Même en dessous, malheureusement.
Ah ouais, là, ça a redescendu un peu. Peut-être à cause des préventes du jeudi puis tout qu'on a dû voir. Fait que, tu sais, on est dans... Ça veut dire une ouverture de 25-30 millions. C'est pas grand-chose, là. C'est, fait que... Sauter sur l'occasion, aller voir le film.
Mais il faut dire que c'est vraiment un film parfait pour voir au cinéma.
Oui, oui, oui.
Par la qualité d'image, le son, la musique, les cadrages... C'est...
Ouais, exact. Il est disponible en anglais, en français, puis j'ai vu certains cinémas aussi anglais sous-titré français, qui est très intéressant. Fait que, moi, je vous encourage chaudement à sauter sur l'occasion, ne serait-ce que, comme on dit, mettez-vous à jour tout de suite pour les Oscars, là. Pas avoir trop de rattrapage à faire, c'est certain qu'il va y avoir 1, 2, 3, 4, 8 nominations pour ce film-là.
Définitivement. Restons du côté américain, mais dans un autre ton. The Great Eleanor, première réalisation de Scarlett Johansson.
Oui, Eleanor la Grande au Québec. Pendant que j'y pense, on vient de finir ses versions. Commençons ses versions. Il n'y a pas de version française, mais c'est anglais avec sous-titres français. On retrouve la magnifique June Squibb, Chiwetel Ejiofor, Jessica Aitch et Erin Kellyman, qui est un nom peu connu, un visage qu'on reconnaît. On parlait des Star Wars d'entrée de jeu. Était dans Solo. Était dans les Captain Falcon and Winter Soldier, la série télé.
Elle a quand même un visage assez particulier, surtout cette tignasse rouquine, très frisée, là. Ça distingue vraiment à l'écran.
Et les grains de beauté aussi, puis tout, là, vraiment une belle jeune femme. Et c'est ça. Souvent, on la voyait dans des films d'action jouer la rebelle qui finit par enlever son masque, puis c'est elle. Je sais pas pourquoi elle avait ce casting-là de film d'action. Puis là, c'est cool de l'avoir dans un rôle plus comédie dramatique, plus sérieux, endeuillé de sa mère et tout. Pourquoi endeuillé de sa mère? J'y viens au synopsis. C'est un peu par un malentendu. C'est une femme de 94 ans, June Squibb, perd sa meilleure amie qui décède comme ça. Et là, se retrouve dans un meeting, est en Floride, retourne à New York vivre avec sa fille. Mais est un peu marabout de tout ça, s'ennuie de son amie, sa fille l'inscrit à un centre d'activité de personnes juives aînées là, pour garder contact et tout. Fait qu'elle va là, puis elle se retrouve un peu dans mauvaise pièce, puis avec des survivants de l'Holocauste, mais elle n'a pas connu l'Holocauste, fait au lieu d'inventer une histoire, elle va comme raconter l'histoire de son ami décédé. Puis là, ça va un peu faire boule de neige, puis on va se mettre à penser que c'est son histoire, qu'elle est donc bien brave, et etc. Fait que c'est un peu le classique du jusqu'où ce mensonge va te mener, vas-tu pouvoir t'en tirer? Et le personnage de Kellyman et de Ejiofor, sont une fille qui étudie en journaliste, son père qui est...
lecteur de nouvelles.
Ouais, lecteur de nouvelles, Fait qu'ils vont un peu s'intéresser à elle. Fait que là, est-ce qu'elle va les décevoir et tout. Fait qu'une une forme de chronique, drame doux amer sur un peu le mensonge, le deuil beaucoup, l'amitié éternelle, plus forte que tout, voilà. Parce que aussi, ben, la jeune fille, elle a perdu sa mère il y a quelques temps, fait que c'est plus froid avec son père. Quand est-ce que le deuil est fini? Un peu comme les ruptures, là, des fois. Ben, c'est plus intense un deuil qu'une rupture, mais je veux dire, des fois quand on dit « Ah, c'est une journée par mois que t'es avec » ou c'est fait qu'elle-même, elle pose la question à un moment donné, tu sais. « Hey, toi, quand t'as perdu ton frère à l'Holocauste, ça t'a pris combien de temps avant de y penser? » Puis c'est comme « Ilala, là, je répondu à ça, là. Elle sait pas là, que tout ça n'est qu'un mensonge, en tout cas. » Fait que, ouais, t'en as pensé quoi, toi, Patrick?
Écoute, ben, je sais que les critiques ont été quand même un peu sévères.
Moi, je suis d'accord avec toi, ouais.
Surtout avec la réalisation de Scarlett Johansson, que j'accepte d'emblée que c'est pas flamboyant. C'est vraiment une réalisation très posée.
Souvent caméra fixe, ouais, même pas épaule
puis,
et tout.
Puis, mais je pense que c'est vraiment voulu de laisser toute la place aux comédiens. Et je pense, moi, je trouve que c'est la force du film, justement. Il n'y a pas de tape à l'œil. C'est très intimiste. Les comédiens sont vraiment très bons. June Squid est vraiment très, très drôle à voir.
Ouais, cette madame-là qui a du bagou.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça.
Pas weirdo, là, juste non. Comme. Elle n'est pas barrée.
Une vieille tannante un peu. Là.
Ouais.
Et Aaron Kellerman qui contrebalance ça très, très bien. Fait que moi, je me suis laissé embarquer. Je trouve que c'est très sympathique. C'est pas un chef-d'œuvre, on s'entend, mais je pense qu'on passe un bon moment. L'histoire est quand même intéressante aussi.
Ouais, j'avais pas vu la balance vraiment, plus, puis je savais pas que ça irait sur comme ça un peu l'Holocauste, mais c'est pas un film de guerre, c'est plus comme le souvenir, mais par rapport au deuil, fait que eux, c'est pas ça, mais ils ont pas le choix de mener le lien avec les c'est la gang des juifs survivants et tout, fait que comment rendre hommage à tout ça, fait que c'est vraiment très bien. Elle doit être, Johansson, la gang de New York, là. J'imagine, elle n'est pas côte ouest, parce que pour camper son film à New York, c'est sûr que bon, c'est un nom un peu proscrit, mais ça me rappelait un peu du Woody Allen à sa façon. C'est un film qui est comme une mise en scène minimaliste, mais qui est beaucoup basé sur le dialogue, les relations entre les personnages.
La musique aussi, très classique, piano, on est ailleurs aussi.
Oui, simpliste.
Puis je pense que c'est très voulu, parce qu'on sait qu'elle a tourné quand même quelques films pour Woody Allen aussi là, dans sa carrière.
C'était pas elle qui était là-dedans, mais le personnage de Squibb a amené une fascination pour Coney Island, puis il veut retourner voir la grande roue puis les manèges. Puis dans les quand même derniers films de Woody Allen, il y en avait un, je pense qu'il était avec Kate Winslet, là, mais c'était Wonder Wheel, puis c'était dans ce coin-là aussi. Puis on magnifie pas New York, il n'y a aucune scène à Central Park où tout est beau et des petits canards, là. C'est comme des condos, des appartements en hauteur, prendre le taxi.
Ça sent quand même à l'écran que c'est un film à petit budget,
oui, c'est ça.
Mais je pense que c'est bien débrouillé avec ce que c'est.
On a filmé ce qu'on a besoin, puis tout est parfait pour ça. Je cacherai pas, moi j'ai trouvé la fin extrêmement touchante. Ah, moi c'est allé, mais j'ai presque dire que j'ai pleuré comme une madeleine. Il y a comme eu un moment, j'ai comme eu des émotions, mais pas, sans offense, là, pas nécessairement les histoires d'Holocauste puis tout, mais plus comme sur cette amitié-là. Des gens qui se chicanent et qui se réconcilient, si c'est bien joué, la musique était là, c'était bien joué, ça a aidé. Donc, malgré nous, on est toujours sensibles à la bonne musique au bon moment pour c'est vraiment le petit, la petite poussée dans le dos qu'on a de besoin. Là. Puis, fait que là, j'étais là, une larme, puis là, j'étais comme, bon, ça va. Puis là, deux minutes plus tard, il y a eu un autre moment, une autre scénette. Là, j'étais comme, voyons, faut que
Colin, j'ai manqué ça. J'aurais aimé ça être là, parce que nous, on l'a vu séparément.
Oui, oui, pendant que tu écoutais autre chose.
Ben, hein, justement, allons-y sur quoi, moi, je...
Fait que, ouais, bref, juste pour finir avec Éléonore Lagrande, moi aussi, je trouve ça beaucoup plus intéressant que les critiques qui sont quand même assez tièdes sur le film. On fait pas ça, mais tu sais, si on était plus en étoile, je suis plus dans le haut 3, 3,5, qui va pour beaucoup de raisons. Je trouve que c'est très intéressant. J'espère aussi qu'elle va avoir un parcours de cinéaste, qu'elle va, j'imagine, là, les moyens de pouvoir faire ça, mais de continuer de nous présenter ce genre de film-là plutôt que les genres de 2 étoiles là, qu'on voit à gauche puis à droite.
Bien d'accord avec toi. Alors, pendant que toi, tu voyais un drame un peu larmoyant, ben moi, j'étais complètement ailleurs, dans l'horreur.
Au bout de ton siège.
Oui, tout à fait, avec The Strangers Chapter 2 de Rennie Harlan.
Écoute, c'est toi qui vas nous en parler, surtout. En plus, t'étais notre spécialiste de cette série-là.
Ben moi, j'ai
vu le premier volet. J'ai juste vu, moi, le
l'original
avec Liv Tyler. Ouais, exactement, c'est ça.
T'étais pas là au premier non plus, je me rappelais pas.
Non. Okay. Et non. À cause de ça, je pense. Puis j'avais pas vu. Je crois pas qu'il est trop en lien. Il y avait eu un deuxième amené dans un parc. Là, quand ils ont vraiment relancé ça.
Ouais.
Parce que ça a pris comme il y a un saut comme 8-10 ans. Mm-hmm. Puis là, ils ont continué. Là. Ouais, des At Night, Pray At Night.
Ouais,
des
Live At Night. Qui n'était pas mauvais non plus.
Mais il paraît qu'ici, ben, on vient justement varier un peu la recette de la franchise. On est plus dans le film de survie qui se passe tout de suite après le chapitre 1. Ouais. Donc,
on retrouve le personnage, j'ai déjà oublié son nom, c'est niaiseux, joué par Madeleine Pitch, qui avait survécu.
Sandy.
C'est Sandy?
Madeleine. Non, je ne sais pas. Je June.
Donc, qui avait survécu, qui se retrouve finalement au début de ce film-là à l'hôpital. Petit clin d'œil à Halloween 2 aussi de l'époque où justement Michael Myers venait traquer Jamie Lee Curtis, Laurie Strode à l'hôpital. Mais finalement, je n'étais pas sûr est-ce que c'est la majorité l'histoire va se dérouler là. Finalement, on va complètement ailleurs. Une bonne partie se trouve dans le bois aussi. Fait qu'on change un peu la formule. Ça, c'est bienvenu. Encore là.
Moi, avec la formule, normalement, c'est.
T'es pris dans une maison.
Ouais,
puis
terrasse autour.
C'est du home invasion. Fait que là, on se promène un peu partout. C'est quand même bien. Les critiques n'ont pas été tendres, puis on s'en cache pas. C'était la même chose avec le premier. Honnêtement, si vous aimez l'univers des Strangers comme moi, j'ai vraiment passé un bon moment. C'est loin d'être parfait. Ça me rappelle les films de slashers des années 80 avec leur imperfection. Mais honnêtement, Madeleine Pitch, je trouve qu'elle est très bonne. Elle est très bonne pour jouer la terreur. Fait que c'est un gros plus, honnêtement. Je pense comme une final girl qui a plus de bagou que d'habitude.
Ouais.
Puis en même temps, longtemps, on a comme pas le choix de. Parce que c'est une trilogie, fait que c'est le deuxième volet de trois. Donc de...
Qui ont tous été tournés à peu près en même temps.
La trilogie était. Oui,
prêt,
ça a été tourné back to back. Donc on explique un peu la mythologie, les origines. Fait qu'on va explorer un petit peu plus
cette
histoire-là.
Ou...
Ouais, quand même. Ça, je suis pas complètement convaincu.
Okay.
Je pense que ce qui était la force des autres films, c'est justement on ne savait rien sur ces tueurs-là de manière au hasard.
Sans mauvais jeu de mots, c'est un couteau à double tranchant.
Effectivement.
Montrer le pourquoi. Là.
Fait que là, j'ai hâte de voir comment on va continuer ça dans le troisième film, parce que le 2 se finit vraiment en nous laissant cliffhanger vraiment là, sur un punch. Fait que là, on n'est pas trop sûr comment ça va
puis
se passer.
Le 3, c'est pas exactement quand il sort encore.
Pas de date encore. J'ai l'impression que c'est probablement la même date l'année prochaine. Là.
Ouais, mais tu vois, le premier, il était sorti au printemps. Il était pas sorti...
Mais là, je pense qu'il vise peut-être plus les full films d'horreur de l'automne. Peut-être que ça va changer, on verra bien. Parce qu'à l'origine, je pense qu'il voulait les sortir aux 6 mois. Puis finalement, ça a changé de plan en cours de route. Fait que bref, c'est vraiment « What you see is what you get ». Il y a vraiment une très bonne scène qui était dans la bande-annonce que tu m'as rappelé. Enfin, un bout, je l'avais vu, où le personnage est comme... ramassé dans une voiture.
Ouais, en autostop
un peu. Là, on sait pas trop est-ce que c'est eux les tueurs ou pas. Très bonne scène.
Ah
honnêtement,
ouais,
okay. Là, ça, c'est dans. Ouais, j'ai.
Ça arrive quoi sans...
au milieu
deux...
du film.
Au milieu,
à peu près. Ouais, c'est ça. Puis il y a une autre scène assez originale aussi dans la forêt, j'en dirais pas plus, qu'on n'a jamais vue au cinéma d'horreur, qui détonne un peu. Mais qui est assez original.
Okay. Fait que finalement, c'est une bonne offrande de horror flick, justement.
Moi, je pense que oui. Je pense que les critiques, ben tiens,
est-ce que...
souvent, ils sont très sévères avec ce genre de film-là quand
oui, parce
ça
que ça réinvente pas l'air
ben,
ou totalement.
C'est
que...
du série B en quelque part, là, on s'entend aussi. T'sais.
C'est 1h30 de courir après du monde avec un couteau.
Ouais. C'est sûr qu'il faut mettre la logique de côté parce qu'il y a tout le temps des hasards. On peut arranger avec le gars des vignes. Ben oui, c'est ça. T'sais. Fait que bon. Mais ceci dit, moi, j'ai passé un bon moment. Je me suis bien amusé avec The Strangers,
puis,
The Chapter 2.
Mettons, là, je te mets un gun à la tempe, couteau à la gorge.
Ouais.
Tu préférais ça ou Conjuration 4?
Écoute,
ils sont quand même différents dans leur
ouais,
façon.
Ouais, c'est très différent. Ben, moi, je suis plus fan de slasher à la base
c'est
que
vrai.
De films de possession et tout ça. Fait que je pense que j'ai plus eu de plaisir avec lui, mais
okay.
Quand même, La Conjuration
là,
demeure
aussi...
un meilleur film, on s'entend.
Oui, puis là, t'as vu, tu l'as vu tout seul, probablement, tranquille,
ouais.
Tandis que Conjuration, c'est ta fameuse fois à Toronto, une salle pleine, très réactive,
ouais.
Fait que ça aide toujours
ouais.
sur un film. Ouais, une question difficile, quand même.
Mais j'aime vraiment le look, honnêtement, des tueurs dans The Strangers avec leur masque de chérubin.
Je t'annonce là, qu'on va t'envoyer voir le troisième. Je le permets.
Tu me permets. Peut-être, qui sait, tu vas voir. Le goût de le voir est rattrapé.
Ben, peut-être, des fois aussi, c'est pas, je ne l'ai pas boudé. Là. C'est une question d'agenda et de choix là, à ce moment-là. Là. Je ne suis pas resté dormir chez nous.
Allons dans l'horreur, mais un autre type d'horreur.
Oui.
Avec Outstanding de Mélanie Charbonneau.
L'horreur psychologique, ouais, peu, ben peut-être oui. Un peu physique quand même. Production canado-québécoise, je dirais, oui, c'est ça, là, des producteurs québécois, mais c'est un film canadien tourné en anglais, en fait. Outstanding, seul au front au Québec, parce que j'aime bien vous en informer, disponible en anglais, en français ou en anglais avec sous-titres français. Réalisatrice québécoise, Mélanie Charbonneau, qui avait fait Fabuleuse il y a quelques années et qui nous prépare Les Furies dans quelques semaines, là, fin novembre. Sa mère en vedette, Nina Kiri, qui est une comédienne pas tant connue au cinéma, canadienne serbe.
Ben, surtout connue pour la série The Handmaid's Tale, qui a fait un gros tabac.
Le bien-aimé Vincent Leclerc, on oublie aussi qu'à la base, il est ontarien, c'est un franco-ontarien.
Québécois, mais demeuré, demeuré dans l'Outaouais et en Silus.
Il joue souvent dans des films en anglais comme ça, je pense qu'il est capable de jouer sans accent et tout. Antoine Pilon aussi, qu'on trouve au générique bien connu. Que raconte Seul au front? Bien, c'est un film biographique sur une partie ou un moment charnière dans la carrière de Sandra Perron, une Québécoise qui était la première femme officier d'infanterie des Forces armées canadiennes. Fait que, elle avait commencé quelques années auparavant dans les cadets, puis toutes ces choses-là, puis je sais plus tout comment ça s'appelle, mais ça, c'est vraiment son passage dans l'infanterie, là, fait que avoir un gun, commander un char d'assaut, ce truc-là, ce qui mène ultimement aussi à des missions de casque bleu. Puis alors qu'elle est comme reconnue et décorée, elle revient d'une mission de paix en Croatie. On est dans le début des années 90, donc l'ex-Yougoslavie, la guerre Serbie-Bosnie, donc aussi l'arrivée massive d'immigrants à cette époque-là. Fait que les casques bleus, l'armée canadienne allait porter secours et amener des vivres et aider les gens. Et fait qu'elle revient de mission comme ça en 95, puis dit « je quitte, je suis plus capable, ça n'a pas de bon sens ». Fait que là... On se questionne pourquoi, il va y avoir enquête, on va retrouver des photos d'elle lors d'un exercice qui a l'air de s'être fait abuser physiquement, pas une agression sexuelle, mais juste comme presque torturée ou de quoi là, genre d'initiation extrême. Fait que ça va un peu raviver ce passé-là, puis elle va essayer de compléter ça. Et le film est bâti sous une alternance entre ces fameux entraînements militaires-là, alors que le sergent extrêmement dur, joué par Vincent Leclerc en 92 à peu près, et ces années 95-là où les journalistes enquêtent sur elle, puis essayent de savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est quoi son point de vue là-dessus.
Ouais, très bien résumé. Il faut dire que le livre est disponible aussi, seul au front. Si jamais vous voulez un complément au film.
Voilà, je pense qu'en anglais au complet, c'est Outstanding in the Field.
Donc, c'est vraiment un récit, je pense, nécessaire qui méritait d'être raconté, honnêtement.
Ouais, c'est pas une histoire. Ça, oui, c'est lourd, c'est de l'intimidation, du bullying. C'est pas une histoire mélodramatique, c'est une histoire de résilience puis inspirante. On a déjà mis en ligne un épisode spécial où on s'est entretenu avec la cinéaste Mélanie, la comédienne Nina Kiri, mais aussi Sandra Perron faisait la tournée. Là, fait qu'elle est là, puis ce qu'on voit un peu moins dans le film, c'est qu'il y a des choses qu'elle a adorées. Là. C'est une fille d'action, c'est pour ça qu'elle se dépasse, puis même si les autres militaires, les gars, tu sais, c'est la première fois qu'il y a des femmes qui sont là, puis on va voir que dans les camps d'entraînement, puis tout, ben là, les femmes vont finir par quitter, mais elle va rester, puis elle va les faire ses chin-ups, puis ses affaires, puis elle veut se défoncer, puis elle aime ça, c'est l'action, le être sur le terrain. Puis c'est de même qu'elle va convaincre un peu tout le monde par l'adversité, par sa résilience, tu sais. Puis, fait qu'il y a des choses qu'elle a adorées de l'armée, c'est juste qu'à un moment donné, elle était comme plus capable de ça, puis elle a quitté. Puis c'est quand plus tard, ce qu'on voit pas dans le film, ce qu'elle nous raconte Sandra, c'est qu'à un moment donné, elle a voulu comme aider, puis bon, on dit, ben raconte ton histoire, puis là, elle a fait sa biographie, son auto qu'elle a écrit elle-même, peut-être avec un coup de main, là, mais c'est pas un écrivain fantôme non plus. Puis elle a publié ça, puis rapidement, il y a un producteur qui a embarqué là-dedans, puis Mélanie avait lu ça de son côté, voulait entrer dans le film, puis c'était... Puis il y avait déjà quelqu'un d'autre. T'es comme, bon, ben, tant mieux que le film existe, je suis content. Puis quand l'autre réal s'est désisté, ben, ils l'ont rappelé
à elle. Ça, c'est fun, ces histoires-là, quand même.
Ouais, c'est ça. Fait que tu témoignes ton intérêt à quelque chose, puis ça, il peut juste arriver du positif. Fait que c'est un film qui est aussi limité par ses moyens. Je trouve que le montage, la tension, la musique, c'est extrêmement bien fait. Les scènes, justement, il n'y a pas de scène de guerre comme telle. Il y a un petit moment des casques bleus, mais c'est pas un film de guerre. C'est juste un film dans l'armée, si on veut.
Mm-hmm.
Mais en entraînement, toutes ces choses-là, c'est extrêmement bien fait. La tension, quand est, la petite séquence où il est au gym, puis que là, il y a le regard de tous les autres qui envoient des mots écrits, des menaces, des insultes. Puis qu'après, elle essaie de voir c'est qui le sti qui c'est. Fait qu'Antoine Pilon est bon là-dedans pour.
Ben oui. Sans, il est bon pour jouer.
C'est ça. Il y a quand même une face qui peut avoir l'air plus d'un dick là, qu'autre chose. Là.
Mais on t'aime, Antoine.
Oui, c'est ça, exactement. Mais je veux dire, il y a cette faciès-là, comme on viendra tantôt sur un autre film avec Maxime Decotret aussi, qui se retrouve souvent à jouer les poffins. Puis.
Mais Léna Curie aussi veut dire qu'elle est très bonne, la comédienne.
Exactement,
la
c'est
là,
ça.
Ouais.
Puis écoutez, notre épisode spécial, Mélanie aussi souligne à quel point elle était pareille. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle en voulait, puis on refait la prise, pas de problème. Alors que c'est les autres comédiens qui sont comme, ah là, les chin-ups et les push-ups, on peut-tu prendre un break? Puis c'est comme, elle est comme, non, let's go. Fait qu'elle a beaucoup cette drive-là, et ça témoigne, mais aussi cette sensibilité-là à ce qui arrive. Tu sais, l'exercice du prisonnier qui appelle, ou comme on te fait prisonnier un peu à ton insu, puis faut que tu ne cèdes pas sous la menace, etc.
Dans des conditions extrêmes.
Dans des conditions extrêmes, ben, c'est ça des pierres angulaires du film. Ça me comprend jusqu'à la fameuse photo ressort de ce truc-là. T'sais. Puis on discute aussi de, ben, ils l'ont fait. Elle a comme, elle se faisait pas prendre à son insu, mais t'es quand même dans ces conditions-là, enchaîné à un arbre, cagoulé, etc. C'est quand même rough. Là, on parle beaucoup de la coordination des scènes d'intimité dans les films, mais ça aussi, ça en est une. Là,
ouais.
On va te violenter, mais on va faire ça puis ça, fait que tout est calculé. C'est ça. Fait que, tu sais, les reproches du film, c'est que des fois, veut pas, il y a beaucoup de scènes de bureau. C'est assez, tu sais, quand même didactique de « j'ai dit ça, il dit ça, qui dit ça », la personne qui vient déposer une lettre en cachette que tu vois pas, qui se sauve, puis tout. Fait qu'il y a ce côté-là qui est un peu plus terne, si on veut, mais je trouve qu'il est bien contrebalancé dans les scènes plus, pas d'action, mais plus mouvementé, si on veut. Tu as autre chose à...
Non, très, très bien résumé. Je pense que, mais je reviens au début, je pense que c'est un film qui est nécessaire à prendre conscience, à être montré. Puis je suis content que son histoire peut être racontée comme ça.
Moi non plus, je la connaissais pas. Puis c'est vraiment une figure de proue, c'est épatant. Là, on voit beaucoup les histoires de pionniers, pionnières dans le monde du sport souvent, mais... Quand même, c'est vrai. Là. À cette heure, il y en a des femmes dans l'infanterie, mais ça en a pris une première, puis c'était dans les années 90, puis c'était elle. C'était une Québécoise.
Une autre époque. Ouais, en plus.
C'est ça. Fait que là, on n'a pas discuté, mais ça doit être un choix business là, de faire le film plus en anglais. De toute façon, dans l'armée, ça doit parler en anglais assez rapidement. Là. Fait que, chose sympathique, comme on dit, c'est que Nina Kiri est d'origine, elle est née en Serbie, puis est arrivée au Canada quand ça brassait là avec sa famille, fait qu'elle a grandi ici par après, pas au Québec là. Elle parle quand même très bien français
dans l'entrevue
et tout. Puis fait que j'y ai posé, mais juste hors micro, on était un petit peu serré dans le temps pour l'entrevue, puis j'ai eu le temps de demander vite, ben tu sais, là, il y a une scène vraiment où tu joues Sandra Perron en casque bleu, en Serbie, qui aide pendant la guerre, puis tout. Est-ce que tu as connu ça? Puis c'est là qu'elle m'a dit oui, je suis née là, puis en discutant, puis en faisant les lignes du temps. J'étais en Serbie, j'avais genre 6 mois pendant que Sandra était là puis qu'elle aidait les gens. Mais pas le souvenir de oui, elle nous a aidés nécessairement comme telle. Fait que c'était quand même très émotif. Évidemment, ils n'ont pas tourné ce segment-là en Serbie. Ils ont fait ça quelque part au Canada. Là. Mais c'est quand même très drôle. Fait qu'elle dit au fond, j'étais peut-être voué à jouer ce rôle-là finalement.
Alors, voilà pour Outstanding Seul au front. Maintenant, autre offrande plus québécoise, réellement québécoise, en tout cas en français, Anna Kiri de Francis Bordelot.
Oui, parce que ça ne s'invente pas. Alors là, on vient de parler du Seul au front avec Nina Kiri. Et là, on a un film qui s'appelle Anna Kiri.
Ouais.
Alors, qui ne met pas en vedette Nina Kiri, qui met plutôt en vedette Catherine Brunet, Maxime Decotret, Charlotte Aubin. Un couple, pas un couple, mais un couple frère et sœur, un peu tout croche, qui font de la petite business, de la petite magouille. Et à un moment donné, ils font la mauvaise erreur d'aller mordre la main qui les nourrit, d'aller voler le stock du gars pour lequel ils font des magouilles. Ça brasse avec tout ça. Ils sont un peu obligés de tout se sauver. Puis Catherine Brunet, son personnage, Anna, elle scrapbook beaucoup ses pensées, ses idées. Puis là, dans un brouhaha, son cahier va se retrouver entre les mains d'un... professeur au département de littérature et d'écriture à l'université, joué par Fayolle Jean, qui va voir un intérêt, rentrer en contact avec elle, puis essayer de la lancer dans ce monde de la littérature puis de l'écriture, puis dire hey, « t'as vraiment une voix punk, puis il y aurait quelque chose de bien à faire avec ça. » Fait qu'elle va se retrouver entre ces deux chaises-là, entre le monde de la criminalité puis le monde « droit et juste » entre guillemets de la littérature, oui, et élitiste, et etc. Et peut-être va-t-elle découvrir que tout est un peu de la marde, finalement. Puis l'important, c'est d'être authentique à soi-même. Tu sais, ben, je spoil pas, là, je veux dire, dans le sens... Il va se passer plein d'événements inusités quand même dans le film. Deuxième film pour Francis Bordelot, deuxième collaboration avec Catherine Brunet, d'ailleurs. Un film qui est très intéressant sur sa thématique, justement, de l'authenticité, une énergie très forte dans le film, mm-hmm. punk, révolutionnaire, d'être comme... de montrer un Montréal sale, et il fait froid aussi, ça a été tourné l'hiver. Ouais. On a aussi un épisode spécial qui est en ligne depuis une semaine. On les a rencontrés quand ils étaient venus pour la première au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Toi, ton impression sur Anakiri?
Ouais, écoute, un film de genre, vraiment, dans ce créneau-là, ouais. qui peut penser peut-être au premier Guy Ritchie avec la racaille.
Moins comique, là.
Ça, plus sérieux, mais... un peu par l'esthétisme aussi quand même. C'est un film qui a une très belle direction photo, j'ai trouvé. Bien porté par Catherine Brunet, qui a un rôle très physique parce qu'elle se fait bardasser quand même à quelques reprises.
Ça, dans le froid aussi.
Et elle forme un duo avec Maxime Decotret qui joue son frère, qui est très crédible. Et comme tu l'avais mentionné, Maxime qui est super sympathique dans la vraie vie.
Oui.
Mais à l'écran, il est très bon pour
Il joue souvent
jouer.
Des trous de cul dans le plongeur aussi. C'était lui, le petit caïd qui vendait de la drogue.
Avec un contre-casting, mais très efficace. Fait que petit film québécois quand même d'auteur indépendant, il faut le mentionner aussi. Fait que c'est peut-être pas un film pour tout le monde, si vous aimez encourager le cinéma québécois, vous aimez La Relève, je pense qu'il est un film qui mérite d'être vu.
Il y a beaucoup de positifs dans ce film-là, effectivement. C'est un film qui est quand même indépendant, qui est financé, mais c'est intéressant de voir que Francis est quelqu'un qui a un travail complètement autre dans la vie, mais qui arrive à écrire des scénarios intéressants, aller chercher du financement, réaliser ces films-là. Et tout, fait que je trouve ça super louable de sa part, puis c'est un très beau projet. Est-ce qu'il y avait un dernier truc rapidement dans les autres sorties? La mort n'existe pas de Félix Dufour-Lapeyrière, un film d'animation plus pour adultes où il y a une espèce d'attentat d'amis contre des riches à la carabine et tout, puis ça se passe mal, fait qu'il y a est un peu passif, est un peu figé par cette action-là. Puis d'une espèce de façon onirique, ce personnage-là de Hélène va être transporté, hanté par l'esprit de son amie Manon qui est décédée dans l'attentat. Genre, pourrais-tu refaire les choses différemment? Puis comment tu pourrais revenir là-dedans? Une réflexion un peu sur justement la violence armée dans un monde inégal. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut pas la peine? Est-ce qu'on peut changer les choses? Très philosophique, très stylisé. Fait que c'est ça. Pour ça, plus adultes, amenez pas des enfants, ils vont s'emmerder big time.
Ouais.
Je me souviens pas du visa par cœur. Vu que c'est animé et tout, je pense pas que c'est 13 ans et plus. Là. Ça doit être quand même général, mais.
Pour public averti.
Ouais, c'est ça. Puis très beau les voix d'avoir Zeynep Blanchet qu'on avait vu au nord d'Albanie, qui a une voix très douce, justement, sur le personnage d'Hélène qui est très désorienté dans tout ça. Et Karel Tremblay qui a une voix plus incisive, qui joue la Manon, qui est très révoltée, elle, de genre, comment est-ce qu'il faut que tu viennes nous backer, sinon ça aurait marché, puis tout. Pis... fait que voilà, le film qui a joué, il a joué à Annecy, j'ai oublié de noter, je me souviens plus s'il a gagné des prix, mais il a joué à Annecy, il a joué au Festival de la Ville de Québec, il joue un petit
Fantasia
peu partout dans
aussi,
le monde.
Fantasia aussi, je pense, ça se peut-tu?
Pardon?
Fantasia, me semble.
Oui, c'est vrai, Fantasia, c'est... comme Anakiri aussi, d'ailleurs, cet été. Pour les familles, Gabi et la Maison Magique, le film Gabi's Dollhouse, The Movie, fait que une histoire de petite maison de poupée qui se fait voler par une méchante Kristen Wiig très éclatée, puis qu'on rentre dans l'univers animé au travers de tout ça.
Fait qu'un film un peu hybride animation, personnage réel et animation.
Exactement.
Inspiré de la série à succès sur Netflix, donc vos jeunes connaissent ça assurément.
Mais c'est pas une sortie Netflix, c'est DreamWorks qui est derrière la production de cette émission et ce film. Et finalement, autre film québécois, quand on dit que c'était un gros vendredi, Négligence, Neglected de Leonardo Fuica, qui est aussi un film bilingue tourné à Montréal suite à un incident tragique psychologique. Il y a un procès qui va mettre en lumière les circonstances dont le suspect principal est un jeune garçon de 6 ans, négligé par ses parents, mère barman, alcoolique, père qui est plus dans la criminalité anglophone. Fait qu'il y a beaucoup de thèmes dans ce film-là aussi sur la politique, les Québécois, les Anglos, la guerre, les deux solitudes, la DPJ, les parents qui négligent leurs enfants, d'où le titre, la violence d'un jeu vidéo. C'est exactement beaucoup de thèmes là-dedans, mais c'est un film qui est très bienveillant, qui est là pour les bonnes raisons. Oui, il y a des effets tape à l'œil dedans et tout, mais pour les bonnes raisons, ça me rappelle un peu l'effet du Angel Studio quand ils sont arrivés. C'est pas croyant puis conspirationniste puis ces affaires-là. Mm-hmm. C'est pour ça que je dis pour les bonnes raisons, mais qu'ils sont arrivés quand même en disant on va faire un cinéma qui est différent, qui va parler aux gens avec des vrais problèmes puis des affaires comme ça. Ouais. C'était sur l'enlèvement d'enfants puis ces affaires-là. Fait que c'est ça que je veux dire par les bonnes façons. Fait que c'est des gens qui ont trouvé du financement, qui ont créé un scénario, puis leur but, c'est vraiment de dénoncer des affaires sordides qui se passent au Québec puis au Canada puis tout. Fait que c'est un peu confus par moment, mais c'est pas de la vidange puis fait juste pour faire de l'argent ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas l'intention de l'équipe, je sens. C'est beaucoup de films alternatifs qu'on vous a nommés, ben ils sont pas tous dans tous les cinémas. Fait que checkez ce qui vous intéresse et où c'est disponible. La semaine prochaine, on devrait se revoir, c'est possible, ça dépend de toi, ton horaire. Sinon, ouais, on vous en reparle le 10 octobre. Mais le 3, il y a entre autres The Smashing Machine, ouais, avec Dwayne Johnson, Emily Blunt, le film de Benny Safdie sur le combattant de MMA, UFC, en tout cas. Mixed Martial, ouais, Arts.
Mark Kerr. Film qui a fait jaser à Venise, qui a un grand succès.
Ah ouais, puis il a joué au TIFF aussi. Ouais. C'est en septembre. Pour nous contacter, comme d'habitude, écrivez-nous au balado à commercialmonciné.ca et suivez Magazine Monciné sur Facebook et Instagram. Procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province, et allez suivre et écouter nos épisodes spéciaux, ouais, avec Anna Kiri et Seul au front, et il y en a d'autres à venir cet automne. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations.
Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, et si jamais vous intégrez un cercle de soutien, autant choisir le bon et dire la vérité.